on boit moins de lait, mais on en mange davantage. Encore là, on ne mange plus constamment les mêmes produits. La consommation de fromage est en croissance. Celle du yogourt diminue un peu. Geneviève Rainville, agronome et directrice de la recherche économique aux producteurs de lait du Québec, qui parle d'abord du yogourt.
Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de nouveaux produits qui sont offerts. On voit que la catégorie est moins dynamique ces dernières années. Toutes les théories sont bonnes pour expliquer qu'est-ce qui fait que les gens consomment moins de l'un plus de l'autre. Peut-être qu'il y a de la substitution qui se fait aussi entre le fromage et le yogourt, parce que c'est des produits qui se consomment bien en collation ou encore pour le déjeuner, alors que le yogourt, ben, si je veux manger dans mon auto en allant travailler, c'est plutôt difficile. Le fromage, c'est plus facile. Donc, le phénomène des gens qui consomment moins de déjeuner à la maison, il y a des liens à faire avec le yogourt qui est consommé dans une proportion importante aussi au déjeuner. Pour les produits plus riches en gras, donc l'autre part importante de notre marché, le beurre, bien, le déclin qu'on voyait dans les années 80, là, 90, là, le beurre, les gens ont vraiment drastiquement baissé leur niveau de consommation. Alors, quand je vous montrais le graphique d'évolution de notre lait de transformation, bien, ça, c'est ce qui a amené la baisse importante. Puis, ce qu'il y avait comme phénomène qui se passait dans les années 80-90, c'est que les gens consommaient la même quantité de lait, moins riche en gras. Donc, de nos ventes de lait de consommation, il y avait beaucoup de crème qui était générée. Cette crème-là, bien, on pouvait faire du beurre avec, puis le marché du beurre, il baissait. Fait qu'on était à un niveau où est-ce qu'au Canada, la gestion de l'offre, on contrôle la production sur la base des besoins en matière grasse canadiens. Bien là, on était à un niveau où est-ce qu'on commençait à flirter avec l'idée d'être sur un besoin en solide non-gras parce qu'il y avait davantage de demandes pour ça que le beurre pour lequel il y avait une décroissance importante. Puis après ça, bien, le beurre s'est stabilisé en termes de consommation. Puis plus récemment, on a vu une hausse là, un peu plus importante de nos ventes de beurre. Encore une fois, à la fois au niveau du détail, où est-ce qu'on a eu des hausses là, de 3, 4, 5 % de plus de consommation de beurre par année, et aussi au niveau des ventes dans le secteur de la restauration. La restauration, mais aussi de la transformation secondaire. Donc, il y a eu des changements de fabrication qui ont été faits, de recettes. Les gens sont retournés avec des croissants au beurre. Fait que ces conversions-là, ça a généré une augmentation de la demande. Donc, ça, c'est un des éléments. Mais aussi, les McDo, par exemple, qui offrent la possibilité de prendre des déjeuners 24 heures sur 24, bien, ça aussi, ça génère une augmentation de la consommation des produits, en fait, de la demande pour la matière grasse. La crème, elle est constamment en augmentation depuis des années. Elle aussi est influencée par les Tim Hortons, Dunkin' Donuts à l'époque, Starbucks, etc., donc dans les cafés, mais aussi tout ce qui est émission de cuisine, on voit beaucoup l'utilisation de crème, les foodies, alors ça aussi, ça a contribué à la hausse. Puis là, on a des profils de consommation un peu différents. Dans l'Ouest canadien, on va voir le marché anglophone consomme beaucoup plus de crème qu'ici. Dans les habitudes, dans les cafés, tout ça, ça paraît. Puis, à titre informatif, ce qui s'est passé au niveau de la margarine durant la même période. Donc, la margarine qui est en déclin depuis les années 2000, en fait, qui est en baisse continuelle. C'est sûr qu'on est plus proche en termes de substitution entre margarine puis beurre, mais il y a aussi toutes les huiles à salade, les huiles d'olive, on cuisine autrement. Donc, c'est sûr que les huiles ont pris beaucoup plus d'espace durant cette même période-là. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé au niveau des habitudes des consommateurs. Maintenant, comment est-ce que ça a eu un impact sur nous au niveau du paiement des composants aux producteurs, puis aussi indirectement, comment les agronomes ont pu être interpellés à cet égard-là?
Il est facile pour le consommateur de changer ses habitudes, de s'orienter vers de nouveaux produits. Il en va tout autrement pour ceux qui produisent le lait. Une vache ne se reprogramme pas en claquant des doigts. L'impact des changements dans la consommation des produits laitiers est souvent direct sur le revenu à la ferme. De nouveau, Geneviève Rainville, qui faisait une présentation au récent congrès de l'Ordre des agronomes du Québec.
Au Canada, comme ailleurs dans le monde, on paye sur la base de trois composants, la matière grasse, la protéine et le lactose et autres solides. Donc, on a dans un hectolitre de lait à peu près 4,2 kg de matière grasse, 3,25 kg de protéines, puis 5,9 kg de lactose et autres solides. Nous, on regroupe ça en deux catégories. On dit, on a la matière grasse d'un côté, puis les solides non gras qui représentent à peu près 9,15 quand on additionne protéines lactose. Pourquoi est-ce qu'on les regroupe? Parce qu'en fait, quand on fabrique des produits laitiers, là, il y a une étape préliminaire qui est essentielle. On reçoit le lait, pas nous, mais les transformateurs reçoivent le lait et vont le séparer en deux produits distincts, soit la crème d'un côté. Donc, on va écrémer le lait, on va mettre la crème d'un côté qui va être autour de 35 à 40 %, puis on va avoir le lait écrémé dans l'autre. Donc, d'un côté, j'ai mon véhicule de matière grasse, qui est un des produits, puis de l'autre, j'ai mon lait écrémé dans lequel j'ai toutes mes solides non gras. Donc, c'est un peu comme si j'avais deux productions. J'ai un champ de patates puis j'ai un champ de carottes. Mais ces deux composants-là, ils viennent ensemble. Quand la vache le produit, tous les deux viennent ensemble et on ne peut pas dire « ben je ferai un peu plus de champ de patates puis un peu moins de champ de carottes » ou vice-versa. Donc, les deux sont liés et là, il faut voir comment est-ce qu'on peut les influencer. Donc, on a 4,2 kg de matière grasse pour 9,15 kg de solides non gras. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on a 1 kg de matière grasse, vient avec ça 2,2 kg de solides non gras. Le marché canadien, la consommation avec tous les produits qu'on vous a présentés ou encore toute la transformation secondaire, il nécessite 2 kg de solides non gras. Ça veut dire que ma vache, elle m'en amène 2,2 par kilo de matière grasse, mais mon marché, il en voudrait juste 2. Donc, idéalement, les vaches produiraient avec un ratio de 2 kg de solides non gras par kilo de vache. Ceux qui font de l'alimentation auprès des vaches savent que pour arriver à ça, bien, soit que je change de race de vache ou que je vais être très agressif avec certains aliments pour atteindre ces niveaux-là. Donc, on a 2 kg qui s'en va sur le marché de nos produits canadiens, puis on a 0,2 kg pour chaque kilo de matière grasse qui, eux, se retrouvent en surplus par rapport à nos besoins. Donc, ce que je vous illustre ici, c'est toute l'évolution de notre politique de paiement. Ça a l'air bien simple là, ou compliqué selon, là, mais ça a été des moments importants en termes de stratégie pour influencer le ratio de production. Vous avez premièrement le ratio qu'on appelle solide non gras gras, donc combien j'ai de kilos de solide non gras par kilo de matière grasse qui est produit par les vaches laitières au Québec. En 1996, on était à un ratio autour de 2,30-2,31. Et ce ratio-là, graduellement, a baissé. Il n'y a aucun choc dans cette production, mais graduellement, le ratio a baissé parce qu'on a eu différents moments où est-ce qu'on a changé la politique de paiement aux producteurs pour essayer de les inciter à migrer vers une teneur en matière grasse plus élevée dans leur production. Donc, le premier moment, ça a été en 2004, où est-ce qu'on a introduit un ratio maximal au-delà duquel on dit que toutes les solides non gras au-delà de 2,36 n'étaient plus payées. Et on a fait un transfert monétaire, donc on prenait pour chaque kilo de protéines qui était vendue au transformateur, on prenait 3 $ puis on transférait toute cette masse monétaire-là sur le gras. Donc, pour donner une plus-value à la matière grasse, encore une fois, les inciter à augmenter la teneur en matière grasse. Après ça, le ratio, graduellement, à travers les années, a évolué, a baissé. En 2005, il est passé à 2,33. En 2006, on a introduit une prime pour ce qui était des ratios en bas ceux qui avaient un ratio en bas de 2,25. En 2012, on a fait, pour certains, ça peut être vu comme un recul, on a enlevé la prime et on est passé avec un ratio de 2,35, mais ça a été fait dans une stratégie où est-ce qu'on a amené les provinces de la province de l'Ontario et des Maritimes à adopter cette politique-là pour eux aussi abaisser leur ratio. Et là, en termes d'événements les plus récents, on a annoncé qu'au 1er janvier 2020, le ratio maximum va passer à 2,30. Donc ça a eu pour effet de graduellement abaisser notre ratio à la ferme. Le marché est autour d'un ratio de 2 kg, mais ce ratio-là n'a pas toujours été de 2. Si on recule, puis on voit en 1996, le ratio était autour de 2,27-2,28. Donc on avait beaucoup plus de demandes en solides non gras parce que notre labour était différent, parce que la demande de crème était différente, etc. Donc on était dans un ratio qui était beaucoup plus proche de notre ratio de production et l'écart était moins grand. Puis cet écart-là, bien, graduellement, il s'est accru entre ce qui se passait à la ferme puis le ratio de marché. Il s'est accru parce qu'on a vu toutes les catégories riches en gras se mettre à augmenter, puis ceux en solides non gras être moins dynamiques comme le lait de consommation. Et puis ce qui s'est ajouté à ça, c'est qu'en plus de, comme vous voyez, on avait amplement de solides non gras, de protéines canadiennes pour répondre au marché, mais là, on a vu entrer des importations additionnelles via le lait diafiltré, et donc ça, c'est venu remplacer une partie de notre protéine, donc cet écart-là s'est creusé beaucoup plus rapidement que l'écart qui se créait déjà par l'évolution du profil de consommation.
Il y a les politiques, il y a les accords commerciaux et les concessions de parts de marché internes qui les accompagnent. Il y a l'interprétation des règles de commerce. Tout cela influe sur la production des agriculteurs d'ici et ajoute aux effets des changements dans la consommation. Sur les fermes, pour continuer de recevoir le revenu maximum, il faut s'adapter et il faudrait idéalement pouvoir le faire très vite.
Tous les signaux qu'on envoie en termes de mode de paiement, ben, ça va influencer les choix que va faire le producteur aussi au niveau de la régie alimentaire, quel type de produit il va donner à ses vaches pour atteindre ce résultat-là. Et là, on ne veut pas créer de choc, on ne veut pas créer d'habitude qui ne serait pas souhaitable. Donc, les stratégies ont été beaucoup plus accompagnatrice vers un équilibre qui respecte à la fois ce que la vache est en mesure de produire, mais aussi qui reflète le marché. Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau des ventes au détail? Donc, si on regarde les ventes Nielsen, les 12 mois se terminant en août 2019, bien, on voit que j'ai trois produits qui sont des utilisateurs de solides non gras. Donc, j'ai le fromage est en hausse de 3,4%, fait que ça, c'est intéressant. Le lait à boire, il est en recul, on est à moins 2% à l'échelle canadienne, et le yogourt est en recul de 3,5%. Donc, j'ai un seul utilisateur de solides non gras qui est en croissance, les deux autres sont en recul, donc ils me génèrent des surplus structurels. Et mes produits qui sont riches en gras, crème glacée, crème beurre, eux, ils sont en augmentation. Donc, eux, ils me génèrent des surplus structurels. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis, là, dans le fond, j'ai juste le fromage à l'heure actuelle qui n'est pas un générateur de surplus naturel, mais plutôt un utilisateur de solides non gras. Heureusement, le fromage, c'est 40 % de nos volumes, donc ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui se passe sur le reste de la chaîne, bien, c'est sûr que ça continue de mettre la pression sur la nécessité d'avoir un marché pour ces solides non gras-là. Donc, qu'est-ce qui va influencer la politique de paiement dans les prochaines années? Premier en bas, bien, l'équité entre les producteurs. Ça, c'est une demande qui est très forte de la part des producteurs qui sont moins générateurs de surplus structurel, ceux qui ont certaines races de vaches qui vont avoir une teneur en matière grasse d'un lait plus élevé, ou encore ceux qui, dans leur alimentation, leur génétique, ont réussi à hausser leur teneur en matière grasse. D'ici un an, on devrait avoir une nouvelle politique de paiement des composants pour justement mieux refléter cet élément-là. La rentabilité ou l'intérêt d'abaisser le ratio va être plus fort de la part des producteurs. Ils vont vouloir avoir un accompagnement de leurs conseillers en alimentation de ce côté-là. J'espère que vous serez bien les guidés avec des stratégies alimentaires qui vont d'abord se faire par les fourrages, par la génétique, versus l'ajout d'additifs gras dans la ration. Il y a les nouvelles technologies de connaissance. Ces dernières années, Valacta a travaillé très fort pour développer, on sait qu'on a 4,2 kg de gras, mais à l'intérieur de ce 4,2-là, dans le fond, on a différents acides gras qui composent ce lait-là. Et ils ne sont pas tous faits de la même façon. Il y en a qui vont être faits justement par le rumen de la vache, par les fourrages, et il y en a d'autres qui vont venir plus des aliments qui sont ajoutés. Donc, ça va être des nouvelles informations qui vont être accessibles aux producteurs qui vont les vouloir. Et ça va être un outil très intéressant pour les conseillers. Pas juste les conseillers en alimentation, mais aussi les conseillers au niveau du bien-être, parce qu'avec ça, on va être en mesure de pouvoir caractériser le niveau de confort de la vache, son bien-être, son état de santé. Il y a même des potentiels au niveau de l'empreinte environnementale des animaux. Donc, c'est vraiment un outil qui va être très intéressant et que vous aurez intérêt à suivre dans les prochaines années. Pour ceux qui travaillent avec les producteurs de lait. La consommation, donc c'est sûr que ça aussi, ça va continuer d'influencer peut-être des futures politiques, dépendamment de comment continue de croître notre marché. Les ententes commerciales, donc c'est sûr que la ratification de l'accord avec les Américains, si elle a lieu, bien, elle va faire mal. Elle va faire mal parce qu'on va être plafonné éventuellement à 35 000 tonnes d'exportation de solides non gras. On aurait besoin plus d'un espace de 60 à 70 000 tonnes de surplus structurel. Puis, les tendances de consommation continuent d'amplifier cet élément-là. Donc, c'est sûr que ça va mettre encore plus de pression pour inciter les producteurs à hausser leur teneur en matière grasse. Et finalement, la demande des transformateurs, puis tout ça, c'est beau, on joue, on essaie d'influencer la composition du lait, mais il faut que les caractéristiques, les propriétés des composants qui s'y retrouvent permettent de maintenir une qualité de nos produits, les caractéristiques auxquelles on s'attend, donc d'être en mesure de faire du fromage, que le lait continue de se mousser, que le beurre soit, ait les mêmes propriétés. Donc ça aussi, c'est des éléments qui vont influencer le paiement dans les prochaines années.
Ici Lionel Levac. Il est clair que les marchés dictent les orientations de la production. Les consommateurs ne voudraient pas qu'il en soit autrement. Mais ces consommateurs, trop souvent, n'ont aucune idée de ce que leur choix, si légitime soit-il, ont pour effet sur la production primaire et la transformation. Au revoir.